France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. La guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa phase décisive d'après Israël, qui ignore les appels à un règlement diplomatique du conflit et poursuit ses frappes, notamment au Liban. Elles ont fait plus de 800 morts en moins de deux semaines. Contre cette guerre et l'offensive américano-israélienne, des dizaines de milliers d'Espagnols ont manifesté aujourd'hui, alors que deux Espagnols sur trois sont opposés à ce conflit. Nous irons à Barcelone. Et puis, il défendait justement le débat public et l'importance du dialogue pour canaliser les conflits. Le philosophe allemand Jürgen Habermas est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Nous reviendrons sur le parcours de l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. La guerre au Moyen-Orient est donc entrée dans sa troisième semaine. Une guerre déclenchée par l'offensive américano-israélienne en Iran le 28 février dernier, qui a entraîné de nombreux pays dans son sillage, à l'instar du Liban, où les frappes israéliennes depuis le 2 mars ont fait 826 morts d'après un dernier bilan publié aujourd'hui par les autorités libanaises. En visite à Beyrouth, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à arrêter la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien et à choisir pour cela la voie de la diplomatie. Sauf que les frappes et les tirs israéliens se poursuivent. Si l'armée israélienne divisait le Hezbollah, au moins 12 personnes d'un centre de santé ont été tuées aujourd'hui dans le sud du pays, tandis qu'un autre raid a touché un immeuble résidentiel du nord de Beyrouth. Alors entre deux frappes, les habitants de la capitale qui ont pris la fuite prennent le risque de retourner quelques instants dans leur quartier pour récupérer quelques affaires comme ceux de la banlieue sud de Beyrouth, place forte du Hezbollah, que Fabien Gosset et Valérie Crova ont rencontré.
Assis sur son scooter, Ali regarde les ruines encore fumantes du bâti.
C'était la banque islamique. Il n'y avait pas d'armes.
L'armée israélienne dit avoir visé une succursale d'une institution financière liée au Hezbollah. Ali revient tous les jours dans son quartier, après que son immeuble a été lui aussi touché par un missile.
Il n'y a aucun combattant du Hezbollah ici. Des partisans, oui. Mais des armes et des roquettes, non.
Dans une rue perpendiculaire, Hassan sort deux chaises d'un ascenseur.
Je suis en train de prendre quelques meubles au cas où mon appartement serait visé. La machine à laver, des tables, des choses pour les enfants, des livres d'école.
Hassan a pris la décision de quitter la banlieue sud, devenue invivable.
Il y a deux jours, il y a eu une frappe sur l'immeuble juste derrière. Il n'en reste plus rien.
Hassan ne perd pas de temps, il veut repartir vite.
Il y a la peur, c'est sûr, mais que faire ? C'est un quartier menacé.
En quittant Dariyé, nous croisons une voiture dont les occupants font en signe de provocation lever de la victoire.
Valérie Crova, envoyée spéciale avec Fabien Gosset au Liban, où près de 800 000 personnes ont été déplacées depuis le début de la guerre. Et les appels à une résolution diplomatique de ce conflit sont pour l'heure ignorés. Pour le ministre israélien de la Défense, la guerre entre même dans une phase décisive et elle se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, promet Israël Katz. L'armée israélienne affirme aujourd'hui avoir bombardé un site majeur de recherche spatiale à Téhéran après avoir pilonné la nuit dernière la capitale iranienne. L'armée américaine a quant à elle bombardé hier soir l'île de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne où des sites militaires ont été pris pour cible. Donald Trump prévenant qu'il s'en prendrait aux infrastructures pétrolières de l'île si le passage libéré sur des navires dans le détroit d'Ormuz est entravé. En représailles, l'Iran a bombardé plusieurs pays du Golfe, dont une installation pétrolière aux Émirats Arabes Unis, tandis qu'en Irak, l'ambassade américaine à Bagdad a une nouvelle fois été visée après des frappes dans la capitale irakienne contre un groupe armé pro-Iran qui ont fait au moins 3 morts. Contre cette guerre au Moyen-Orient, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Espagne aujourd'hui. L'Espagne, dont le Premier ministre Pedro Sanchez s'oppose frontalement à Donald Trump, refusant que les États-Unis utilisent les bases militaires espagnoles pour attaquer l'Iran. Une position de fermeté saluée par les manifestants qui se sont réunis dans près de 200 villes, dont Barcelone. Henri de la Guérie.
Sous une pluie intense, protégée par un parapluie au pied de la cathédrale, Maria manifeste derrière une grande banderole « Il faut arrêter la guerre au Moyen-Orient », voilà ce qui est écrit, avec à côté une reproduction du célèbre tableau « Guernica » de Picasso. Cette documentariste dénonce une violation du droit international.
Je suis totalement en contre de ce que Trump et Netanyahu sont en train de faire. Je pense que c'est criminel, ils doivent être jugés.
Le gouvernement espagnol a refusé de mettre à disposition ses bases militaires pour aider les États-Unis. Pedro Sanchez tient tête à Donald Trump. Il dénonce sans ambiguïté la guerre en Iran, une position défendue par 2 Espagnols sur 3.
Je suis tellement admirative de ce que Sanchez, le président, a fait. C'est incroyable. Moi, je me sens très honorée d'être espagnole. Et alors, je suis surprise que la France, d'habitude, est très active contre toutes ces injustices, ne soit pas à la rue. Où sont-ils ? Je ne le comprends pas, vraiment.
À cause de la pluie, il n'y a pas eu autant de monde que prévu, mais ces manifestations ne sont qu'un point de départ, affirme l'organisatrice Enoria Suarez.
On compte sur un effet boule de neige. Pour Gaza aussi, la lutte contre le génocide a commencé doucement, mais ça s'est amplifié. Il y a eu la flottille pour Gaza, le tour cycliste d'Espagne, et ils ont fini par négocier un cessez-le-feu.
Si les organisateurs ont des mots très durs contre les États-Unis et Israël, ils condamnent également, je cite, le régime criminel des ayatollahs et l'assassinat de plusieurs milliers de personnes.
Le reportage d'Henri de Laguéry, correspondant de France Culture à Barcelone. Des manifestations contre la guerre en Iran ont également eu lieu à Rome cet après-midi, ainsi qu'en France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans près de 85 villes contre ce conflit, contre le fascisme et le racisme lors de la marche annuelle des solidarités. Intellectuel allemand le plus influent de sa génération, promoteur du projet fédéral européen après la Seconde Guerre mondiale, seul remède selon lui à la montée des nationalismes, le philosophe Jürgen Habermas est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Chloé Geffroy, il laisse derrière lui une œuvre majeure après avoir défendu mordicus l'importance du débat public.
Le climat politique dans lequel grandit Jürgen Habermas est l'un des fondements de sa pensée philosophique et sociologique. Incorporée aux jeunesses hitlériennes, l'adolescent est profondément marqué par l'effondrement du nazisme. De cette rupture brutale naît une inquiétude qui guide les 20 premières années de ses recherches. La démocratie peut-elle s'enraciner en Allemagne ? Dominique Méda, sociologue et philosophe, salue un très grand penseur du XXe siècle.
C'est pas seulement un philosophe, c'est aussi un sociologue, je dirais, avec une prise en considération des débats et de l'actualité.
Intellectuel combatif, parfois polémiste, Habermas était impliqué dans tous les grands débats de l'après-guerre et voyait en l'Europe le seul remède à la montée des nationalismes.
Il produit un certain nombre de textes pro-européens très très tôt, à partir des années 80-90. Et il va assez vite appeler au fédéralisme, à une Europe fédérale. Il plaide pour une souveraineté partagée, une souveraineté européenne. Et surtout pour une plus grande implication des citoyens.
Pour Habermas, l'engagement public était la tâche la plus importante de la philosophie. Lui qui a été le porte-voix de la contestation étudiante allemande dans les années 60, avant d'en devenir la cible 30 ans plus tard, ayant dénoncé les risques d'un fascisme de gauche pour l'état de droit. Jusqu'à son décès, il n'hésitait pas à prendre régulièrement la parole, notamment sur la guerre en Ukraine. Dans une récente tribune, il plaidait pour des négociations avec la Russie.
Chloé Geffroy pour France Culture. On termine ce journal par une grande oubliée de la recherche médicale, la santé des femmes, sous représentation dans les essais cliniques, pathologies spécifiques insuffisamment reconnues et symptômes méconnus. Beaucoup de femmes subissent encore l'errance médicale. Mais les choses commencent à bouger, notamment concernant l'endométriose qui concerne une femme sur 10. Depuis 2022, cette maladie gynécologique fait l'objet d'une stratégie nationale et des innovations en santé s'en sont saisies, comme l'a constaté Tara Schlegel au salon MedinTech à Vincennes.
Voilà une maladie bénigne, mais parfois atrocement douloureuse, qui a été très longtemps sous-diagnostiquée. Chez ces femmes, l'endomètre s'enflamme et des cellules vont migrer sur d'autres organes, au point parfois de nécessiter une intervention pour retirer ces tumeurs. Au salon MedinTech, la professeure Isabelle Thomassin-Nagara, radiologue à l'hôpital Tenon, a présenté une application totalement gratuite, élaborée avec la Société d'imagerie de la femme. Elle est destinée aux patientes qui ont fait une IRM pour savoir où en est leur endométriose.
Donc il y a une version anglaise, version française. Donc là, en fait, on clique. Le gros avantage de cette application, c'est qu'on a un onglet qui s'appelle cartographie, qui permet de voir, en fait, finalement, toutes ces localisations qui sont dessinées.
Il y a plusieurs schémas et le médecin va cocher l'organe touché, poursuit la radiologue.
La maladie, elle est sous les petites zones noires qui sont dessinées en plus. On voit là qu'il y a une petite étoile qui est entre l'utérus et le rectum. On voit là qu'il y a une atteinte au niveau de l'ovaire, en fait, à gauche, et de la trompe. Et là, du vue d'au-dessus. Pourquoi on a fait cette vue-là ? Parce que c'est la vue qu'a le chirurgien quand il commence sa célioscopie. Et donc ça permet aussi au chirurgien de montrer à la patiente avant la chirurgie qu'est-ce qu'il va lui proposer.
L'application, en comptant le nombre de zones affectées, va y associer un score qui aide à la décision.
Et ce score, en fait, dans une étude multicentrique sur plus de 600 patientes en France, on a montré qu'il permettait de prédire le temps que va prendre la chirurgie, la durée d'hospitalisation et le taux de complications post-opératoires. Et ça, c'est un critère qui est important.
Important dans cette maladie où les femmes en moyenne attendent 7 ans avant d'avoir un bon diagnostic et peuvent, enfin, grâce à ces outils numériques, prendre une décision éclairée.
La météo de votre dimanche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest et un ciel qui restera nuageux de l'Alsace à la région PACA. Les températures minimales affichent 1 à 6 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau et Jean-Guilain Meige à la technique.